propriété Leclerc Communication. Puis j'espère qu'ils écoutent pas trop souvent, sinon ils vont pogner un 2 minutes.
Boulevard
102.1. Bienvenue dans l'Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
10h, 1 minute 27 secondes. Salut, bon mardi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102. Mon nom, c'est Yann Marceau. Et je vois clair. Je vois très clair. Je vois de loin. Je vois de près. J'ai pas de lunettes encore. Tout va bien. C'est dur de travailler avec des gens plus jeunes, les amis. Vous avez pas idée à quel point ces gens-là peuvent vous faire sentir plus vieux que vous l'êtes réellement.
On est dans une impasse ce matin.
Une impasse?
Ben là, je t'ai clairement insulté.
J'ai
là.
Failli sacrer mon gars.
J'ai failli faire le show de sel.
Je me suis senti comme la première fois où tu te fais appeler monsieur.
Ouais.
Mettons, t'as 30 ans, la fille a 25, c'est vraiment ton genre, t'es ouais. à SAQ. Ouais. Puis elle dit, est-ce que vous voulez un sac, monsieur? Puis là, tu le regardes, puis là, ton cœur
vient de fendre.
Vient de fendre parce qu'elle t'a appelé monsieur. Ben, ce que tu m'as dit tantôt, ben, pas que je t'allumais sur toi, là, mais ce que tu m'as dit tantôt, ça m'a fendu le cœur aussi.
Je comprends, puis je pense que t'as mal saisi ce que je voulais dire.
Attends un peu. T'as mal saisi ce que tu voulais dire. En fait, t'as dit exactement ce que tu voulais dire. Moi, je suis là, gentil comme pas un, attentionné, aimable, à ma place, à mon bureau. Je fais pas de mal à personne. J'étais en train d'écrire des lettres d'amour à mes amis pour leur souhaiter bonne fête et tout ça. Et tout d'un coup, j'entends la voix de Satan, Audrey, pardon, qui dit « Yann, quand je t'imprime un texte, là, est-ce que tu veux que je te l'imprime en caractère 18? » Pardon?
Attends! Oui, mais là, je comprends ta perception. Je suis désolée que tu l'aies perçu comme ça.
Pardon? Caractère 18.
Oui, mais c'est parce que faut mettre en contexte. Je fais des feuilles, tu sais, pour qu'on puisse se suivre et s'informer pendant l'émission. Puis c'est juste que je trouvais sur mon ordinateur que l'écriture avait l'air vraiment petite. Puis je me suis dit, je me force peut-être à tout rentrer ça sur une page pour rien. Peut-être qu'ils préféraient que je mette ça sur deux pages un peu plus gros au final. Parce que j'ai pas le choix de te dire que notre collègue, Denis Gravel, lui, aime ça un peu plus gros. Fait que je me suis dit, peut-être que Yann aimerait ça que j'imprime ça un peu plus gros.
Parce qu'il voit pas clair?
Ben, je pense juste que c'est plus facile pour lui à suivre quand les caractères sont un peu plus gros. Je voulais t'offrir la même chose.
Ouais.
Loin de là, mon intention de t'insulter ce matin.
Quand j'étais jeune, je m'apercevais que les gens avaient des difficultés à voir quand ils reculaient la feuille. Tu sais, là, au lieu d'être à genre 30 cm de la feuille pour la lire...
Ouais, oui, puis il plisse un peu le front.
Il la recule, puis il lève un peu le nez.
Ouais. C'est là que la vieillesse vient de frapper comme du monde.
Mais ça m'est pas encore arrivé. Je suis capable de regarder de très près comme je suis capable de regarder de très loin. Près, loin, près, loin. Je sais pas c'est en quel caractère ça, là, mais...
C'est à peu près en 16.
En 16, mais tu vois, je lis ça, il y a aucun problème. Je peux te lire ça d'ici, là.
Puis si je te présente la mienne qui est en 13...
L'Alzheimer, Dr Sylvie Belleville, expert en neuropsychologie du vieillissement cognitif et coprésidente du comité scientifique de l'UCILAB, va être avec nous sur l'heure du midi.
OK, puis mettons que je te pointe ça ici, là, on fait un examen de la vue, là.
Je commence avec les premiers?
Oui.
Les signes et... faut pas que tu bouges la feuille, par exemple. Les signes et les symptômes pour reconnaître la maladie d'Alzheimer. Est-ce générique? Non, je suis capable. Tu pourrais même...
Non, mais c'était pas pire, OK? On a quelque chose.
Tu pourrais même être au houle-mur là-bas, puis je pense que je pourrais le voir quand même. J'ai d'excellents yeux.
T'as une belle vue, je le confirme.
Une bonne vue.
Une bonne... Ben, tes yeux bleus, t'as une belle vue aussi.
Parce qu'une belle vue, ça serait comme si tu me parlais de toi.
Ouais, ça peut... Ben, t'as une belle vue, je pense. La fille, elle se prend vraiment pas pour de la merde. J'ai mis des colères.
Fait que c'est ça. Les bonhommes de mon temps, ils reculaient leurs feuilles, tu sais, pour lire. Puis après ça, il y avait un autre indice aussi que, ben, dans ma tête d'enfant, quand j'étais jeune, là, qui me disait que la personne avait des difficultés de lecture. C'est quand elle avait déjà des lunettes d'en face. Puis pour lire, elle levait ses lunettes ou elle regardait par-dessus ses lunettes.
Ou elle les baissait un peu, oui, oui.
Elle mettait les lunettes sur le bout du nez.
C'est pas toi, oui.
Puis là, elle regardait puis elle sortait ses yeux comme Jean-Luc Mongrain.
Moi, c'est quoi l'autre affaire qui égale monsieur pour moi? Les gars, vous faites ça, on dirait, à partir de comme 36, 37.
Attention à ce que tu vas dire.
Non, mais c'est vrai, ça me fait mourir.
On n'est pas tous comme un bonhomme à maison. Là.
Vous levez vos pantalons quand vous vous assisez. Tu fais ça?
Non.
T'as des gars, qu'est-ce qu'ils font à partir d'un certain moment, là? Il y a comme ça vient avec un son. Ils s'assisent, là, puis c'est comme... Ils lèvent leur pantalon avant de s'asseoir pour, je sais pas, se créer un lousse au niveau de l'entrejambe. J'ai aucune idée.
Ben ça devrait être le contraire. Quand tu lèves ton pantalon, c'est parce qu'il y a nous autres dans le jeans, il y a une craque, là. Oui. Fait que tu te ramasses la craque dans la raie. Moi qui porte pas de bobette, là, puis je porte pas de rien, c'est sûr que je fais pas ça. Là.
Oui, mais c'est un geste de monsieur. Oh oui, c'est un geste de monsieur de faire de l'espace aux genoux aussi. Là. Vous avez ce réflexe-là qu'on n'a pas quand on est plus jeune.
Il y en a un que je suis persuadé que tu n'as pas remarqué, mais que moi, je remarque chez les gars qui commencent à vieillir. Là. J'ai des chums qui sont de même. Ils se lèvent debout, ils prennent le pouce, ils rentrent le pouce à l'intérieur, ils font le tour de leur ceinture.
Hé, hey, mais t'as raison, maintenant que tu le dis, je le vois.
Ils font ça. Je sais pas pourquoi ils font ça.
C'est bizarre, hein? Comme pour créer un certain, je sais pas, un espace, là.
Toi, t'as-tu des signes de vieillissement quelque part?
C'est drôle que tu dises ça parce que...
À part tes rides? À part tes cernes?
Va chez le bonhomme.
Tes cheveux qui sont...
J'ai pas de cheveux blancs encore, je suis très fière.
Ouais, mais t'en as de moins en moins, ça, dessus, là.
J'ai de moins en moins de cheveux, ça, je te le donne. J'ai jamais eu beaucoup de cheveux.
C'est inquiétant.
Tu ris, mais je suis rendue avec des pattes doigts. Puis là, le matin, là, pendant Noël, j'ai pogné un petit buzz. Là, puis là, je regardais des vidéos sur Internet, TikTok et compagnie. Tu sais quoi, du gua sha? C'est comme une technique ancestrale.
Pas vraiment, non.
Non, mais c'est sûr, t'as déjà vu ça, des tablons dans ce moment-là.
Si tu me parles d'Irish Spring, là, c'est un savon. Ça lave mon char, ça lave mon chien, ça me lave moi, ça lave mes cheveux.
Le gua sha, c'est une pierre, une genre de petite. C'est un instrument que tu vas utiliser pour venir masser ton visage pour essayer d'enlever les rides. C'est une vieille technique.
Ça, c'est les filles qui font ça?
Bien, souvent, mais les hommes aussi, j'imagine, le faisaient. Mais là, j'ai commencé à faire ça pour essayer d'éliminer parce que je ris beaucoup. Puis Non. Non, mais j'ai des lignes dans le front. Moi, j'ai des lignes de...
Ça marche pas, ton gua sha.
J'ai des... Va-t'en chier.
Tu m'as cherché, hein? Je vais te bitcher toute l'émission.
T'es pas fin! Puis j'avoue, le matin, le seul signe... Parce qu'on s'entache pas, je suis quand même jeune encore, là. Le seul signe, là, c'est que le matin, des fois, je me sens momie. Tu sais, dans le sens que d'habitude, avant, on dirait que je me levais puis j'étais tout de suite prête à partir. Il faut comme que je m'étire un peu. Là.
Comme un petit lapin énergisant.
Il faut comme que je prenne le temps de je sais pas, là, activer les muscles un peu. Mais c'est la seule chose.
Mes signes de vieillissement, moi, j'ai pas encore de cheveux gris, mais je commence à avoir un peu de gris dans le bas.
Mais toi, honnêtement, t'as pas beaucoup de signes de vieillissement pour ton âge, là. Je dis pas que t'es rendu à 75, là.
Ouais, quand les gens me disent ça, là, je peux vous dire qu'à l'extérieur, ça paraît pas, mais à l'intérieur, c'est pourri raide.
Tu le sens?
Hey, je me lève le matin, là. C'est pas des jokes, je fais des petits pas.
Arrête.
Je commence par faire des petits pas parce qu'on dirait que le sang il est pas réparti partout dans les jambes. Fait que là, je fais des petits pas, puis à un moment donné, ça commence à aller mieux.
Faut
là, je
peux faire ma journée. Corps, là.
Faut que j'habitue mon corps.
C'est bon.
Ça, c'est le signe de vieillissement que j'ai constaté quand j'avais 30 ans.
Hey, ça a commencé tôt quand même.
Oui, mais j'ai toujours fait énormément de sport.
Mais normalement, c'est censé t'aider.
Ben oui, mais t'as des articulations. Tes articulations sont maganées. Là. Pense à tous ceux, tous les gars qui ont joué au soccer, qui ont aujourd'hui 40, 50. Ils ont des petits problèmes de genoux, des fois.
Tu joues au hockey en plus, là.
Joue des hockey, c'est très demandant. L'été, je fais de la course à pied. Fait que veux pas, les genoux sont...
c'est un coup dur que ça donne,
sont
là.
Sont utilisés pas mal.
Ça.
Mais c'est ça. 30 ans, j'ai commencé à le sentir. Les filles, ça paraît pas tant, mais je trouve que les filles d'aujourd'hui, je regarde les femmes, là, 60, 50, 40, sérieux, ça n'a rien à voir avec les femmes de notre époque, nos arrière-grand-mères, nos grand-mères. Moi, ma grand-mère, j'ai une image fixe de quand j'étais très jeune, puis j'ai une image fixe de quand elle est décédée, il y a à peu près 10-15 ans entre les deux, puis elle n'a pas changé en 15 ans, elle avait le même look.
Avais-tu la coupe Q-tips?
Elle avait ça, mais elle avait de l'air déjà vieille.
Mm.
Puis quand elle est décédée, elle avait l'air déjà vieille. Là, c'est capoté parce que la génération qui est... ceux qui ont 40 ans et qui ont encore la chance d'avoir leur grand-père ou leur grand-mère, tu vois les grand-mères qui continuent à faire attention à elles, ils ont de l'air plus jeunes à 80 qu'ils avaient de l'air quand ils avaient 40.
T'as raison.
C'est complètement
mais
weird.
Mais là, il y a plusieurs affaires là-dedans,
c'est
sûr.
Les cosmétiques, le maquillage.
Ouais. Mais mettons qu'on prend la base de la santé, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on est plus conscient puis qu'on veut vieillir vieux et en santé, dans le sens qu'il n'y a personne qui veut vieillir vieux puis amocher. Là. Tu ne veux pas vivre dans ce temps-là. Là. On a une collègue ici, moi, qui est mon modèle de vie, là. Okay, elle s'appelle Nicole. Nicole, elle a 60 ans. Okay? Je sais peut-être qu'elle m'arrachera en tête que je dis ça, là. Mais Nicole, tu pourrais jamais dire hein, qu'elle a 60 ans. Nicole, je m'entraîne avec le mercredi midi en gang ici.
Ouais.
Je m'excuse, Nicole est plus en shape que probablement toute la gang mis ensemble.
Ouais.
C'est une femme qui est en forme, qui prend soin d'elle, sans être dans l'exagération. Puis je dis ça peut-être, là, qu'il y a de l'aide esthétique, cosmétique, j'ai aucune idée. Mais Nicole, c'est une femme qui est naturelle puis qui est exceptionnellement belle. Là. Moi, je veux dire, je veux ressembler à Nicole à son âge, tu comprends? Mais c'est de plus en plus le cas. Puis t'as l'esthétique, c'est sûr, t'en as là, qui vont aller fillers, botox et compagnie pour aider. Puis ça aide peut-être au fait que les femmes ont l'air de pas vieillir, contrairement aux hommes.
Oui, mais tu sais, les gars aussi, j'ai l'impression que les gars vieillissent mieux que dans le temps. Les gars travaillent moins fort que dans le temps. Tu sais, quand tu travaillais 7 jours sur 7 dans le bois, à bûcher du bois, puis après ça, tu revenais à la maison, tu étais magané sur
corps
un méchant
fêtes, temps.
T'avais le corps détruit. Mon chum Colas qui dit « J'ai compris que j'étais rendu trop vieux pour être DJ des bars quand les filles me disaient « vous » pour me demander une toune. »
Ouch! Oh, ça a vraiment dû faire mal. Mais les gars, vous avez la chance, par exemple. Ben, je dis la chance. C'est peut-être super stéréotypé, puis je me ferai lancer des roches, mais les gars, vous avez la chance de bien vieillir à la base. Moi, j'ai toujours trouvé un gars, poivre et sel, mettons, plus sexy qu'un gars dans trentaine.
Ouais.
Tu sais, je trouve que les gars, vous vieillissez bien. Ça vous va bien, les petites rides. Je sais pas, c'est peut-être le côté mature qui fait que c'est plus attirant pour nous autres. Faut dire que votre cerveau se développe un peu en retard, hein, dans la vingtaine. Fait que c'est peut-être ça qui nous attire quand vous êtes un peu plus vieux.
Récemment, quelqu'un d'éduqué, là, puis je me trompe pas, il y avait un DR proche de son nom, là.
Ah ouais?
Puis c'était 45 ans que le cerveau avait atteint sa pleine maturité totale.
Oh mon Dieu, OK.
Fait que pardonnez-nous.
Et c'est lourd, ça, parce qu'on disait 25 ans avant 45 ans, c'est...
Pardonnez-nous.
C'est peut-être pour ça que les femmes sont attirées par les hommes mi-quarantaine. C'est qu'on se rend compte que là, sont prêts à
s'engager. C'est la biologie qui est de même, pas nous autres.
C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on est développés à 18 ans.
Nature. Ben non, exagère pas.
Hey, franchement, il y a des femmes qui sont très, très matures début vingtaine. Là.
Attends pas, je l'ai cite. Bon, j'avais raison. Les capacités cognitives de l'homme commenceraient à décliner dès l'âge de 45 ans.
Ah,
tu vois,
c'est
pas
oui,
la même
affaire. Décline. C'est ça. Mais le cerveau complet, mettons, ton cerveau à pleine capacité, c'est 25 ans. Je suis pas mal certaine de ce que je dis. Fait que souvent, les femmes, début vingtaine, puis tu le vois dans des jeunes relations, là, la femme début vingtaine va déjà penser là, à son futur, sa famille, sa maison, va avoir le goût de s'engager. Le gars, il est loin d'être là, là. Vraiment loin, là. Tu sais, il y a vraiment un débalancement, là. C'est pas pour rien que souvent les filles dans la jeune vingtaine vont
c'est pour ça que
vous êtes attirée
par les sugar daddy.
Ben là, ça, c'est une théorie que je lance, là. Je dis pas sugar daddy, faut pas pousser non plus, ça dépend à quel âge. Mais tu sais, je regarde, mettons, Reg, OK? Qu'est-ce qu'il y a?
Reg!
Non, mais attends!
C'est pas un sugar daddy,
non,
Reg.
C'est pas... Oh, j'ai pas dit que c'est un sugar daddy.
Non, non.
Oh.
C'est un top modèle.
Reg, effectivement. Reg, c'est un seigneur de beau papa. Mais Reg, tu montres des photos de lui jeune, pis pogné, là, avec Musique Plus et compagnie, là. Versus aujourd'hui, je me pognerais bien plus Reg aujourd'hui que dans le temps.
J'espère que tout ça s'est enregistré.
Non, mais il paraît pas mal mieux. Je sais pas de quoi t'avais l'air avant. J'ai jamais vu de photo de toi jeune, Yann.
Si j'étais la blonde à Reg, je serais vraiment inquiète.
Ah, mais non, faut pas. Elle est magnifique. T'as-tu déjà vu la blonde à Reg?
Non, essaye pas de te défendre.
Non, mais la blonde à Reg, c'est un équivalent. Okay. Les deux sont dans la même ligue. Là.
OK, moi.
Je te le dis. Je salue Catherine.
Il n'y a pas de compétition.
Zéro.
Non, c'est ça.
Non, cette femme-là est magnifique et Reg est en amour avec cette femme-là depuis à peu près 18 ans. Là.
Ouais.
C'est pas une blague.
Okay.
Mais il faut quand même dire que Reg est un très bel homme.
Ouais.
Et c'est un plus bel homme que c'est un flow.
Mm-hmm.
Puis je suis sûre que mon chum, je vais le trouver plus sexy.
Ah, ton chum.
Mais qu'il ait 40 ans, je change de tract. T'as-tu vu comment je. Aide-moi. Je suis sûre que mon chum, mon amoureux,
oui.
L'amour de ma vie, le père de mes futurs enfants, ce top modèle extraordinaire.
Le père de ton chien.
Oui, va être vraiment plus beau à 40 ans qu'il l'est maintenant.
Tu le souhaites.
Je trouve mon. Je le souhaite fort. Je trouve mon chum, franchement, plus sexy maintenant que quand on s'est rencontrés. Il commence à être poivre et sel, mon chum.
C'est vrai.
Puis il est pas vieux, là.
Bon. Ça nous encourage.
Bref, les boys, vous êtes chanceux, vous vieillissez bien. Puis les femmes, on est complexées, puis ben on s'aide pour bien vieillir aussi.
Les filles sont complexées par les rides d'expression dans le front. Là.
Ah, moi, ça, je trouve ça beau.
Mais moi, j'ai des cicatrices dans le front.
T'as des cicatrices de quoi, toi?
C'est des rides d'expression, ça a l'air de des cicatrices. Là.
Oui, mais non, mais j'ai même que toi.
C'est vrai?
Mais tu sais qu'on est un peu déshydratés
non,
aussi.
Non, t'en as peut-être plus que moi.
Ah, va donc chez le bonhomme.
Ah.
Pose pas ta là que je vais quitter. Je vais me sentir complexée, m'aller chez l'esthéticienne.
Non, ne soyez pas complexée. Vous êtes tellement belle.
Oh,
vous êtes tellement belle, puis tellement belle longtemps.
Hey, ça rejoint beaucoup de monde quand même. Hein?
Tu vois?
Ben, tu vois, il y en a qui nous parlent des pouces, que c'est une des façons, que les doigts qui craquent, les articulations qui craquent.
Ouais.
C'est une des manières où ils ont commencé à ressentir la vieillesse.
Les vieilles blessures aussi. Tu sais, mettons que tu t'es déjà cassé une jambe, tu t'es déjà cassé les doigts, plus vieux. Tu le ressens, même si ça fait 20 ans que tu t'es cassé ton doigt plus vieux.
T'as raison.
Je sais pas pourquoi, mais t'es ressent.
Mais ça, c'est une peur. Puis je suis contente de. C'est peut-être parce que je me traîne avec des plus vieux, là. Je suis entourée de vous autres à journée longue. Mais j'apprends. J'apprends
des
de vous.
Les gens qui veulent avoir des feuilles sur lesquelles il y a une police 18, hein,
exactement. Non, mais j'apprends de vous parce que t'es pas le premier qui dit ça. Que, tu sais, les blessures, nanana, plus vieux, tu ressens beaucoup. Fait que c'est rendu qu'à cause de ça, chaque fois que j'ai mal à quelque part, j'ai comme une obsession d'en prendre soin puis de. Je sais pas, de mécaniquement que mon corps fonctionne comme du monde pour te faire le plus longtemps possible.
Hey, Jean Chrétien, là.
Oui.
Quand j'étais jeune, il y avait déjà de l'air mort. Il devait avoir 40 à l'époque.
C'est pas fin.
Il y avait déjà de l'air d'un zombie. Là.
C'est vraiment pas fin.
Puis je l'ai entendu à 91 ans, puis il est plus allumé que n'importe quelle personne qui m'entoure.
C'est particulier, hein?
Il est allumé comme un rond de poêle. Tu sais, il y a pas... C'est pas Joe Biden.
C'est-tu la peur de vieillir qui embarque? Si tu gères à cinquantaine, tu te rends compte que là, tu t'en vas dans l'autre sens, là, puis je sais pas,
Je le sais pas.
Tu travailles plus ton cerveau, tu essaies de plus bouger.
Mais Jean Chrétien avait déjà de l'air vieux quand j'étais jeune. Là, j'ai vieilli de plusieurs décennies. Je l'ai entendu, 91 ans, allumé comme un rond de poêle. Puis il dit qu'il est en forme. Il dit qu'il est encore capable de courir, ce Jean Chrétien. Là. Il dit qu'il est encore capable de courir un marathon. Là.
Ben il ne faut pas pousser. Là. J'irai pas au marathon. Là. Je le crois qu'il est encore en forme. Là.
Ben, c'est un petit gars de Shawinigan. C'est un gars drôle, en plus. Ouais. Puis, mais il n'y a pas de problème de mémoire. Si on peut vivre comme lui, ben pas avec sa face, là, mais si on peut vivre comme lui, ce serait parfait.
Mais le pire, c'est que je suis sûr que Jean Chrétien s'entretient beaucoup, par exemple, parce que tu n'as pas le choix. Le danger quand tu es à cet âge-là, c'est que si tu arrêtes une certaine routine qui te tient debout, là, le déclin est rapide. Là. On l'a beaucoup vu là, pendant la pandémie. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées que rapidement, je veux dire, ils prenaient leur marche tous les jours, faisaient du petit vélo stationnaire, allaient nager à la piscine de la RPA. Puis du jour au lendemain, ben, malheureusement, le fait de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir sortir, ça a eu un gros impact sur la santé. Là. Fait que c'est là que tu vois d'entretenir des petites affaires au quotidien, ça peut faire une grosse différence.
Oui, contrairement à ce que Audrey vous mentionne, vous n'écoutez pas le boulevard... comment il m'a dit, l'auteur? Le boulevard des vieillards.
On peut-tu garder ça? Y a-t-il quelqu'un qui a entendu? Boulevard des vieillards, je veux ça quelque part.
J'essaie de rappeler ce que l'auditeur a dit.
Pauvre Yann.
OK. Contrairement à ce qu'Audrey a dit, vous n'écoutez pas le boulevard de l'âge d'or. Vous êtes sur boulevard 102.1. On est très content que vous soyez là. Juste vous dire, dans les prochaines heures, il y aura, pour ce qui est des antennes radio, pour ce qui est des stations de radio à Québec, là,
oui.
On est pas mal toutes sur la même antenne, puis on met les soucoupes radio directement sur cette antenne-là.
Oui.
Puis il va y avoir de la réparation qui va se faire tout au courant de la journée, ce qui fait en sorte que ça se peut qu'à un moment donné, vous dites, hey, d'habitude, que je pogne boulevard 102.1, vraiment, qualité A1, puis là, ben, on est rendu comme qualité B ou qualité C. Dites-vous que c'est pour quelques minutes seulement. C'est toutes les stations de radio qui vont être impactées de ça. Puis si vous voulez avoir la qualité du son auquel vous êtes habitué, téléchargez-vous l'application Boulevard 102.1. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Mais on nous dit que ça va être quelques minutes. Là, on est en train de réparer quelque chose qu'on devait réparer. Ouais. Ça touche toutes les stations de radio de Québec.
Le bémol, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ces quelques minutes-là vont être. Fait que c'est comme d'ici 16 heures. Téléchargez-la, puis vous n'aurez pas de problème. En plus, ça prend pas de place sur le téléphone.
C'est juste que fiez-vous pas à la voix d'Audrey. Si la voix d'Audrey griche, c'est la voix d'Audrey.
Mais non, c'est pas l'antenne. Hey, faut que je fasse attention à ton petit cœur, hein? Je la retiens, celle-là.
Hein, je t'avais dit au début de l'émission. Tu m'as cherché.
Je t'ai trouvé, hein?
Ouais. Hier, tu m'as envoyé une affaire écrite tout de travers. T'as vu ce que je t'ai envoyé?
Oui, tu t'as répondu au message.
J'ai envoyé une photo de moi?
Oui, à l'envers.
Mais
c'est pour ça, ce matin, je voulais m'assurer que tu étais encore correct parce que visuellement, je me suis dit que, étant donné que. Il y avait des enfants qui te dérangeaient, peut-être que tu avais besoin qu'on ajuste, là, Yann.
Hey, avant de passer à la pause, cher ami, c'est quoi l'histoire de règlement Starbucks? Pourquoi c'est si important que ça de parler de Starbucks qui vient de passer un nouveau règlement?
C'est pas Starbucks, je pense, plus que le principe, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Là. C'est Starbucks qui décide que maintenant, si tu veux aller dans ses toilettes, faut que tu consommes. Fait que tu peux plus rentrer dans un Starbucks juste pour aller aux toilettes, mettons que t'es sur la route, là, sur la 40, puis il faut que t'ailles faire pipi, là. Faut absolument que tu consommes quelque chose, sinon ils te laissent pas y aller. Puis je trouve ça assez particulier parce que Colin, ça devrait être gratis à aller aux toilettes, on a tous des besoins, là. Je veux dire, je le ferai pas dans mon char, là, tu comprends? Je trouve ça ridicule que tu doives absolument consommer. Puis là, on prend Starbucks en exemple parce que c'est le plus récent, mais c'est pas Starbucks, Christy, leur café est à 10$, là. Je paierais pas 10$ pour aller faire pipi, là, tu comprends?
Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils mettaient ça en place?
Ben non, ben en fait, la réalité, c'est que comme dans n'importe quel fast-food qui est sur le bord des autoroutes puis qui est accessible quand tu t'arrêtes, ben les gens vont souvent rentrer juste pour se réchauffer. camper, aller faire leurs petits besoins puis continuer leur route. Fait qu'eux autres, j'imagine que pour eux, c'est une façon de faire des ventes rapidement, facilement aussi. Là. Fait que c'est une nouvelle affaire qui entre en vigueur pour Starbucks. Fait que vous devez maintenant consommer si vous voulez aller faire pipi.
Tu sais, moi, je suis chanceux puis je suis très alerte. Je suis né à Québec, je connais mes spots. Ouais. Peu importe où je suis, je sais où je peux aller dans une toilette qui va être propre. Je connais mes petits spots. Mais quand t'es ailleurs, là, je sais pas, moi, tu t'en vas te promener à Montréal, t'es à Sainte-Catherine, tu sais que tous les itinérants, eux autres, ont fait en sorte que les toilettes sont pas disponibles pour personne. Ouais. Ça doit être extrêmement compliqué. Je suis pas sûr qu'à Québec, ça nous touche tant, ce genre de problématique.
Je l'ai pas vécu, carnaval, ici.
T'sais, moi, j'ai travaillé quelques temps là, au McDo sur la rue Saint-Jean, quand j'avais 14 ans, 14, 15, 16. J'ai travaillé là au McDo sur la rue Saint-Jean. Mm-hmm. Les gens au carnaval, l'arrêt pipi, c'était McDo, là.
Oui, mais totalement.
Puis des fois, parmi ceux qui faisaient l'arrêt pipi au McDo, parmi ceux-là, il y en avait qui allaient chercher un café ou un chocolat chaud en bas.
Mais c'est ça, j'allais dire. Souvent, les gens qui vont arrêter de toute manière vont se prendre un petit quelque chose. Puis tu sais, McDo, dans certains McDo du côté de Montréal puis ailleurs dans le monde, là, c'est rendu que tu as des codes pour la porte. Fait que tu peux pas avoir accès aux toilettes parce que le code, ils vont te le donner si tu vas commander. Fait que quand tu arrives à la caisse puis tu commandes ta frite, tu dis « j'aimerais aller aux toilettes », ils vont te dire, mettons, le code, ça va être 10-28. Fait que là, tu t'en vas faire 10-28 sur la porte de toilette puis tu as accès.
Oui. Je sais tantôt que tu m'as fait sentir vieux, là.
T'es jeune de cœur, Yann.
Mais j'ai connu l'époque où il fallait que tu mettes un 5 cents ou un 10 cents pour aller aux toilettes.
Arrête, oui.
Ouais. Mais comme on était jeunes, nous autres, on passait soit par-dessus ou soit par-dessous.
Vous avez bien fait.
Faisant en sorte qu'on payait pas. Mais il y avait cette époque-là. Là,
mais je trouve ça ridicule.
C'était la toilette était là. Fallait que tu mettes ton petit 10 cents. Comme la machine à bonbons, là, quand tu vas, je sais pas, au Galerie de la Capitale.
Oh, les
petites bananes. Puis tu tournais ton 10 cents, puis là, la porte débarrait, puis tu pouvais aller faire ce que tu avais à faire, là.
Je trouve ça tellement niaiseux. Ou du moins, si vous nous faites payer de cette façon-là, tu sais, il y a un texto qui dit « Galerie Chagnon, c'était 10 cents. » Au pire, mettez-nous un PayPal, quelque chose, là, je sais pas, mais faut que ça soit rapide.
Ouais.
Je trouve ça innocent qu'on doive passer par la caisse absolument, ou je sais pas, tu fais pipi, il faut qu'on fasse pipi.
Moi, je voulais des enfants. J'avais pas de préférence à savoir si je voulais des gars, des filles. Là, j'ai eu deux gars. Fait que, t'sais, j'aurais quand même aimé avoir une fille aussi pour savoir ce que c'est, les problèmes. Mais
c'est plus pratique qu'un gars. Vous avez le tuyau, vous autres, sur le bord de l'autoroute, là?
Écoute, encore en fin de semaine. On était en tournoi de hockey, puis un moment donné, il fallait partir. Puis on était sur le point d'embarquer sur l'autoroute. Puis on n'était pas vraiment dans la civilisation, là.
Ouais.
Fait que, il me dit, papa, j'ai envie. Ça peut attendre combien de temps? Il dit, ça peut attendre genre 10 secondes. Fait que j'ai arrêté sur le bord du chemin, dans un champ. Puis il a fait des dessins, là. Il a essayé d'écrire son nom, dans la neige.
Cute.
Puis après ça, il est rembarqué dans le char, c'était fini.
Ben oui, mais quand on était jeune...
Une petite fille, là.
Maman, moi, m'a appris à faire pipi sur le bord de l'autoroute. Tu t'ouvres les deux portes, là, puis ça fait comme des paravents. Puis t'es capable de t'accroupir.
Et qu'elle va être contente d'entendre ça.
Non, mais moi, c'est parce que j'ai aucun talent à ce niveau-là. Là, je veux dire, c'est ça, je me pisse dessus, je chalis mes chevilles, c'était épouvantable. Mais là, j'ai un conseil pour les petites filles et pour les mamans. Fait que là, les boys, écoutez, ça peut faire des beaux petits cadeaux, ça, sur le side, là. Un go-girl, tu sais quoi?
Je pense que Pascal CV m'en avait parlé.
Moi, j'ai ça. Je sais qu'Elodérine a aussi. Probablement que Pascal Noir, ça m'épaterait vraiment pas d'elle. Non, mais c'est révolutionnaire. Un go-girl, là, pour t'imaginer.
Ça t'épaterait?
Non, mais c'est...
Pas d'elle.
Ça m'épaterait pas d'elle. Elle est débrouillarde aussi, Pascal, là. Ben oui, c'est sûr qu'à ça, là. Je suis convaincue. Si moindrement, t'es une fille intelligente qui sait que ça existe, faut que tu saches que ça existe, mais tu t'en commandes.
Il y a une camionneuse qui nous écoute. Elle dit « Les pauses pipi sont souvent problématiques pour nous autres, les camionneuses. »
Ah, mais j'en doute pas, c'est vrai. Hein? Le go-girl, rapidement, c'est comme un entonnoir. C'est un entonnoir en silicone. Puis c'est bien fait, là, c'est sur mesure. Là. Puis tu fais pipi là-dedans, fait que tu peux faire pipi comme un homme. Fait que tout ce que t'as à faire, c'est à peine baisser tes culottes. Là, il y a un tuyau, tu comprends, puis tu fais pipi. Puis quand je l'ai eu, j'ai eu peur parce que je me suis dit, c'est sûr, ça va déborder, m'en avoir partout dans les mains, ça va être épouvantable. Fait que je l'ai essayé chez nous devant la toilette. J'ai comme fait pipi comme un gars dans la toilette. Ça marche super bien. Le flow se gère vraiment bien. C'est vraiment fait pour ça. Fait que les filles, sans joke, moi, j'ai ça dans mon char. Je le traîne dans mon auto, j'ai tout le temps une bouteille d'eau pour pouvoir comme le rincer puis le nettoyer. Là. Je traîne ça dans mon char, dans le petit coffre à gants.
Dans un sac Ziploc, mettons?
Oui, bien, il y a un sac qui vient avec, puis tout, c'est vraiment bien fait. Moi, je mets des Kleenex là-dedans. Je n'ai jamais mal pris.
Ah, ouais.
C'est fantastique. Puis ça t'évite, justement, tous ces problèmes-là.
Pierre-Paul qui nous dit il y a une bâtisse sur la rue Buade en ville qui charge 1$ pour utiliser la toilette.
Je trouve ça complètement fou.
J'ai acheté un piste debout pour ma femme. Elle s'en sert lorsqu'on fait de la moto. C'est génial.
C'est ça. C'est malade mental. Te le dis. C'est...
T'achètes ça où?
Mon Dieu, il y a ça dans toutes les grandes surfaces comme Ciel, mettons. Tu sais, t'es dans le plein air. Là, fait que pour camping et tout, c'est sûr. Ciel a ça. Je sais qu'il y a ça dans les Walmart. Toutes les grandes surfaces. Tu dois avoir ça chez Costco. C'est magique. C'est pas cher. C'est en silicone. Fait que ça pue pas. Ça prend pas l'odeur. C'est comme les jouets sexuels. Là. C'est malade.
T'sais, prendre soin de la clientèle, là, je veux dire, il n'y a rien de mieux que ça. Puis je me pose des questions à savoir, tu sais, quand ils se sont posés la question, là, hey, on va faire un communiqué pour dire si vous voulez venir aux toilettes chez nous, il faut absolument acheter un café à 10$, comme tu l'as dit. Il n'y a personne autour de la table qui a dit ça n'a pas de bon sens. Il faut prendre soin de notre clientèle, puis on charge des hochères du café. On pourrait leur donner l'utilisation de la toilette gratuite. Là.
Mais tu as 100% raison. T'sais,
même si c'est des clients, c'est pas des clients là, ça se peut que ce soit des clients demain. Exactement. Si tu les envoies chier aujourd'hui, exact. Ça se peut que demain, ils n'aillent pas chez vous.
Moi, je me dis, je rentre dans le magasin, puis on me dit bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Puis je peux utiliser les toilettes. Je trouve, j'ai le sens un peu de la business. Ça me pousse peut-être à revenir.
Oui. Tu sais, c'est rare que je fais ça, là, mais il faudrait faire une émission sur le service à la clientèle. T'sais, avoir des gens qui travaillent dans le service à la clientèle.
Ouais.
Comment ça se passe? Puis les bons comportements, les mauvais comportements, les histoires. Puis c'est rare que je fais ça, Audrey, mais je vais nommer la place. Je suis allé au McDo avec mon gars à Drummondville. Puis on a passé par le service au volant. Et là, je colle un dîner enfant. C'est un burger avec des frites puis un petit jus de pomme. Un burger avec des frites, jus de pomme. Puis moi, je me prends un petit café. Puis là, il me dit, avancez, puis mettez-vous sur le truc 1, là.
Ouais.
On va aller vous le porter.
Mm-hmm.
Ça a pris 12 minutes.
C'est épouvantable.
Puis là, je regarde le burger de mon gars. Il y a de la moutarde plus que de ketchup. C'est rempli de cornichons. Fait que là, mon gars, il dit, papa, moi, je mange pas ça. Fait que tu comprends que moi, j'ai mangé ça, puis lui a mangé ses petites frites. Mais le burger était tout croche. La viande était à l'extérieur du pain. On a attendu 11 minutes pour un burger.
Puis c'est censé être un service rapide, là.
Puis le gars, il vient nous porter ça. Puis tu sais, je comprends que des fois, ils peuvent commencer à travailler là, puis c'est un petit peu plus long que d'habitude. 11 minutes.
C'est long, là.
Pour un petit burger pour enfants. J'avais, sur l'heure du dîner, là.
Ouais. C'est du travail à chaîne, c'est censé être super rapide.
En fin de soirée, t'es conciliant, tu dis, garde, ils s'en mettent pas de backup. Mais sur l'heure du dîner, ils sont supposés être extrêmement productifs et avoir le bon nombre d'employés nécessaires. 11 minutes, quand il est venu me porter ça, pas de sourire, il me regardait comme s'il voulait me faire les poches. Là. Il m'a donné mon sac, j'ai dit merci beaucoup, il m'a même pas répondu, il est parti. 11 minutes.
C'est capoté. Normalement, ils sont même pas censés en plus t'envoyer dans ces parkings-là, à moins qu'il y ait une erreur de commande. T'sais.
Je travaillais sur la rue Saint-Jean, parfois j'allais faire des chiffres sur le boulevard Hamel. Moi, c'était les McDo de M. Simard dans le temps. Puis les filles, s'ils dépassaient comme 2-3 minutes, se faisaient taper ses doigts.
Totalement. Mais c'était carrément ça le temps. Moi, c'était ça aussi. T'avais 3 minutes pour prendre la commande, faire payer et donner. Puis honnêtement, ça se faisait très bien, là. C'est sûr qu'on manquait pas de staff à l'époque. Peut-être qu'il y a ça aussi qu'on peut donner là, aux employeurs. Là. Mais nous autres, ça allait rapide en motadine. Puis tu le vois le temps de compter sur l'écran.
Moi, je suis dans le service au volant. J'ai attendu le service au volant. Puis après ça, je suis allé me stationner.
Non, c'est débile, là.
Puis j'ai attendu 11 minutes stationné. Je comprenais vraiment pas. Peut-être que c'est une bad luck qui est arrivée cette journée-là, puis il y avait un problème, là. Mais tu sais, la présentation du burger, c'était juste épouvantable de donner ça à un enfant, là.
Ça marchait pas. Non, je te crois totalement. Puis écoute, je pense que ça vaudrait la peine, effectivement, de faire une émission spéciale. Puis on dirait que je prendrais employeur et employé. Puis nous, on va faire le rôle des clients, évidemment.
On
mais
prend
je...
des clients d'ici. On prend Pascal CV. Puis Maxime Larouche.
Mais moi, le service à la clientèle, c'est probablement l'affaire la plus primordiale, je trouve, qu'on devrait garder. C'est ce qui nous reste un peu de l'humain, là. D'être capable de dire bonjour, merci, d'être serviable. C'est rendu là, que je donne du tip à des gens qui méritent même pas de tip quand j'ai un bon service. Peu importe le magasin ou je prends le temps d'aller saluer puis de dire merci quand c'est bon puis c'est bien fait.
Ouais.
Parce que ça n'existe plus beaucoup. Hey, on pourrait chialer longtemps, mon Dieu. Là.
C'est ça. Je sais que c'est hors sujet, mais ça vient en lien avec un sujet que tu nous as parlé il y a 5 minutes, là, ton fameux appareil piste debout là, pour les femmes.
Oui, le Go Girl.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu te la secoues combien de fois? 2 ou 3 fois?
On n'a pas la secouer, c'est ça qui est magique. Puis on n'est pas trop beurré, ce qui est encore plus le fun.
Dans les prochaines secondes, je vous le promets, on va travailler pour de vrai. Docteur Sylvie Belleville qui va être avec nous en studio. Elle est experte en neuropsychologie du vieillissement cognitif et coprésidente du comité scientifique de l'UCLAB sur l'Alzheimer. Donc elle sera avec nous. D'ici là, tu as Jean Leloup qui nous accompagne. Ben oui, avec la vallée des réputations, c'est le fun de l'entendre, Jean Leloup. je sais pas si on va le revoir un moment donné dans les médias. Ce serait le fun de le réentendre.
Vraiment.
Un bout qui a disparu. 418-971-1021, 418-971-1021, les amis. Il se passe quoi que ce soit sur la route, vous avez des choses à nous dire, c'est le numéro de téléphone à composer. Audrey,
yes.
Merci. On s'arrête. 10h39 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Moins 5 degrés sur Québec. C'est de la neige sur Québec. À certains endroits, c'est pas super bien déneigé. C'est extrêmement glissant. Faites attention sur la route. Entre 2 et 4 cm annoncés pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, voyez-vous, on parle aussi d'averses de neige, mais il n'y a pas de centimètres annoncés. Donc, ça devrait embarquer dans justement ce fameux 4 cm. Minimum de moins 11 pour ce soir. Mercredi, généralement nuageux, avec un maximum de moins 6. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, 418-971-1021.
C'est rare qu'on ait de la circulation à cette heure. Mais ça a été vraiment difficile ce matin. Peut-être commencer par la 20 ouest entre l'avenue Taniata et l'avenue des Églises. La voie de droite qui est partiellement en travers en ce moment. Il y a une panne de ce côté-là. Les policiers qui sont arrivés, ça ralentit quand même pas mal. Également sur la capitale, direction est, il y a quelques ralentissements, je vous dirais, à la hauteur de Robert Bourassa. Ouest, ça se passe à la hauteur de Laurentienne. Quoi que ce soit d'autre, vous n'hésitez pas, ça passe par texto.
C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. D'ici 2050, le nombre de Québécois qui vivent avec un trouble neurocognitif comme l'Alzheimer pourrait dépasser 360 000. Donc, c'est plus du double qu'actuellement. On a le plaisir de recevoir avec nous Dr Sylvie Belleville, qui est experte en neuropsychologie du vieillissement cognitif et coprésidente du comité scientifique Lucilab sur l'Alzheimer. Dr Belleville, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. L'Alzheimer, c'est une cause qui vous tenait à cœur. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre famille qui a fait en sorte que vous vous êtes dit, ben moi, j'aimerais travailler dans ce domaine-là?
Ah, oh, c'est une bonne question. Oui, effectivement, mon père n'a pas eu l'Alzheimer, mais il a eu ce qu'on appelle un trouble neurocognitif vasculaire, c'est-à-dire qu'il a eu des troubles cognitifs assez jeunes, très, très jeunes. Moi, j'avais 15 ans et ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a beaucoup attristé. Puis on ne savait pas trop, ça fait longtemps, hein? Je veux dire, pas dire mon âge, mais on ne savait pas trop quoi faire à l'époque, hein? Les familles étaient laissées un peu à eux-mêmes et puis... Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et après, je suis allée dans le domaine de la cognition, des neurosciences, du cerveau. Et après, et quand j'ai commencé après mon doctorat à travailler comme neuropsychologue à l'Institut de gériatrie de Montréal, ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des premiers symptômes de maladie d'Alzheimer. C'était beaucoup ça, ma pratique clinique. Alors, c'est quelque chose qui m'a intéressée très tôt et je suis contente de continuer à contribuer à leur qualité de vie.
Quand on était jeune, les gens qui étaient condamnés à l'Alzheimer, il n'y avait pas d'espoir. J'ai l'impression que c'était une mort très, très rapide. Là, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait avec les décennies qui ont passé. Puis aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur l'Alzheimer. Commençons par le départ. Comment ça débute, l'Alzheimer? Pourquoi ça arrive dans notre vie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a attrapé ça? Est-ce qu'on l'attrape ou on l'a déjà à la naissance? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour repousser ça le plus loin possible?
Ben, c'est beaucoup de questions que vous me posez là.
Même moi, je suis en train de me perdre, le Dr Belleville.
C'est les grandes questions que les chercheurs se posent.
Ouais.
C'est sûr. Si on savait qu'est-ce qui cause l'Alzheimer, on aurait probablement le médicament pour le guérir. Parce que pour guérir une maladie, il faut connaître sa cause. C'est la première chose qu'il faut faire. Donc, actuellement, les chercheurs, ils ont plein d'hypothèses. Ils cherchent à différents niveaux. Puis, c'est pour ça qu'on commence un petit peu à avoir des réponses pour cette maladie-là, parce qu'on la comprend mieux. Je dirais qu'il y a 40 ans, 30 ans, les gens ne s'intéressaient pas à la maladie. Ça fait longtemps qu'on la connaît.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on l'a identifié, mais c'était comme si c'était quelque chose, oh, ben, c'est les personnes âgées, puis c'est normal avec l'âge. Maintenant, on réalise que ce n'est pas du tout normal d'avoir cette maladie. C'est une maladie déjà, ce n'est pas du vieillissement normal. Et puis les personnes qui ont 75, 80 sont encore maintenant, on en voit à nos parents, tout ça, très en forme, fait qu'ils veulent continuer à profiter de la vie, puis leurs enfants, petits-enfants veulent continuer à profiter d'eux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie? D'abord, ce qu'on sait, c'est que dans le cerveau de certaines personnes, il y a une accumulation de protéines anormales. Protéines amyloïdes qui est à l'extérieur des neurones, les neurones, c'est les cellules du cerveau, et la protéine tau qui s'accumule à l'intérieur du neurone. Puis, bon, ces protéines-là sont là normalement, hein, on a plein de protéines dans notre cerveau, mais c'est comme si là, elles devenaient dysfonctionnelles, puis elles s'accumulaient, et ça empêche les cellules de bien fonctionner. Puis ça empêche les cellules du cerveau de bien communiquer les unes avec les autres et ça va éventuellement causer une mort neuronale. Donc les cellules vont mourir, le cerveau va perdre du poids, puis on va perdre des cellules. Puis ça va occasionner, c'est très graduel. Maintenant, on sait que cette maladie-là, les changements qu'on observe commencent probablement 20-30 ans avant le moment où la personne elle a un diagnostic actuellement.
Est-ce que
Donc, si les
c'est
gens ont...
génétique?
En fait, question encore un peu compliquée, il y a une très, très petite portion, à peu près moins de 5 % où c'est clairement génétique. Donc, si on a le gène, on est sûr qu'on va l'avoir. Mais ça, c'est la minorité. La plupart, c'est ce qu'on appelle des cas sporadiques. C'est-à-dire que c'est des gens, il y a probablement une susceptibilité génétique. On a identifié plusieurs gènes associés à cette maladie-là. Donc, si vous avez les gènes, vous avez comme un peu plus de risque de l'avoir, mais ce n'est pas nécessairement le cas que vous l'aurez. Donc, on voit qu'il y a probablement une maladie qui a une combinaison de susceptibilité génétique et aussi des facteurs environnementaux, des facteurs liés au style de vie. Et ça, c'est une notion récente qui est très excitante parce que s'il y a des facteurs liés au style de vie qui nous permettent de bloquer la maladie ou alors de reporter le moment où elle a ses effets les plus dévastateurs, ben on va avoir un impact majeur au niveau du nombre de cas mondiaux.
C'est une drôle de question parce qu'on dirait qu'on sait c'est quoi en fait l'Alzheimer, là. Tout le monde se dit on oublie tout, là. Mais j'ai l'impression que c'est pas juste le fait d'oublier tes clés, là. Comment ça se traduit au quotidien? C'est à peu près le même processus pour toute personne qui l'a?
Ben, non, il y a une certaine variabilité, mais le profil est assez, je dirais, similaire. C'est-à-dire que, bon, j'ai dit tout à l'heure, elle commence 20-30 ans avant probablement au niveau neurologique du cerveau. Donc, pendant ce temps-là, on n'aura pas de signes, on n'aura pas de symptômes. Il y aura toute une phase qu'on appelle silencieuse, où la maladie se développe quand même, hein. Et puis, à un moment donné, la personne va commencer à avoir des problèmes qui vont l'inquiéter. Ça peut ressembler à ce que vous et moi, on vit, c'est-à-dire qu'on a des petits oublis, puis c'est surtout au niveau des oublis ou alors des problèmes d'attention. Et un moment, puis c'est graduel, hein, les choses vont se devenir de plus en plus sévères au fur et à mesure que la maladie augmente sa sévérité, au fur et à mesure que le cerveau est atteint, au bout du compte. Et à un moment donné, ben, les gens vont réaliser qu'ils ont des problèmes de mémoire qui vont au-delà de ce de ce qu'ils observent autour d'eux, au-delà de ce que ma sœur du même âge a, au-delà de ce que... parce que c'est normal d'avoir un peu de problèmes de mémoire quand on est très occupé, comme vous, ou alors quand on est plus âgé. Donc, ces gens-là pourraient avoir des difficultés, par exemple, à se souvenir d'une conversation qu'ils ont eue la veille, ou des difficultés... une erreur importante au niveau de la gestion de leur budget. Donc, ce n'est pas juste des petits oublis comme on a tous et chacun, avoir des difficultés de souvenir du nom d'une personne. Tout le monde a des problèmes, même quand on est jeune. Puis trop savoir où on a stationné notre voiture, c'est aussi très fréquent. Mais ce sont des gens qui vont avoir des difficultés qui vont commencer à avoir un impact dans leur vie,
Je
puis qui
comprends.
vont se répéter,
Je comprends,
puis
Madame
qui étaient proches.
Docteur Belleville. J'ai un exemple. J'avais reçu Sandra de Montigny, qui
Oui.
est atteinte de l'Alzheimer précoce. Elle, son père est décédé de la maladie de l'Alzheimer. Puis à un moment donné, bon, elle avait des petits oublis, comme vous nous parlez, qui n'étaient pas nécessairement graves. Donc, oublier quelque chose, oublier où elle a stationné son véhicule. Mais une fois, elle est rentrée à la maison, Audrey. Puis elle a vu une paire de chaussures qui étaient dans le bas des marches, puis son conjoint était à l'intérieur de la maison. Et elle a dit à son conjoint, elle l'a appelé deux, trois fois, elle a dit: À qui sont ces chaussures? Et son conjoint de lui dire: Mais chérie, c'est tes chaussures neuves que tu as achetées hier. Et elle ne se souvenait pas du tout de ça,
Ah.
continuait de dire à son conjoint: Tu me mens, tu me trompes, quelque chose du genre. Et là, le conjoint dit, ouais, mais là, Sandra, appelle ta fille, elle va te le dire, elle est allée magasiner avec toi. Et Sandra a dû appeler sa fille pour dire, c'est à qui ces chaussures-là? Puis elle a dit, ben maman, c'est tes chaussures, on est allé magasiner ensemble hier.
Ah, c'est crazy.
Et à partir de ce moment-là, elle a dit, attends un peu, là, mon père avait l'Alzheimer, il a décédé de ça, est allé à l'hôpital, ils ont vérifié, puis effectivement, diagnostic d'Alzheimer précoce.
Voilà. Et ça, c'est ça. Des fois, c'est un événement comme ça qui nous paraît hors du commun.
Ben ouais.
Un peu hors de la moyenne de ce qu'on vit normalement, des petits oublis habituels. Et ça, ça va nous inquiéter. On va consulter. Attention, on peut avoir un événement comme ça pour d'autres raisons, hein? C'est pour ça que c'est important de consulter parce que le diagnostic va être donné quand on a des problèmes, mais aussi quand il n'y a pas d'autres causes qui expliquent ces problèmes-là. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un problème par exemple, de sommeil, d'apnée du sommeil? Est-ce qu'il y a un problème, peut-être même quelque chose de plus inquiétant au niveau cérébral, une petite tumeur, des choses comme ça? Donc c'est important d'aller consulter quand on a un problème de mémoire parce que ce n'est pas nécessairement un Alzheimer.
Est-ce qu'on doit toujours utiliser notre cerveau, que ce soit, bon, au travail, c'est normal d'utiliser notre cerveau, mais des fois, à la maison, on regarde la télé, puis, bon, on l'écoute pratiquement pas, on est comme un peu figé, puis il y en a qui ont ça comme mode de vie, là, c'est qu'ils écoutent toujours la télé sans nécessairement réfléchir de ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que ces gens-là peuvent être plus susceptibles que quelqu'un qui, je sais pas, moi, Audrey, à 30 ans, dit, ben moi, j'ai le goût de faire travailler mon cerveau, je deviens cruciverbiste, je fais des mots croisés, j'apprends des nouvelles affaires, je m'inscris à tel cours. Est-ce qu'on peut se préserver longtemps de cette maladie-là?
Bien, ça, c'est une des grandes découvertes des dernières années. Ça a été de montrer que, il y a une grande partie des cas qui peuvent être modifiables. On sait qu'il y a des facteurs qui sont... des cas qui peuvent être prévenus grâce justement à un certain nombre de facteurs modifiables, comme celui-là. Le fait d'avoir un cerveau, d'être stimulé intellectuellement. Ce qu'on sait, que c'est que les gens qui sont stimulés intellectuellement tout au long de leur vie, ils ont moins de risques de développer un Alzheimer. Alors, il y a deux choses. D'une part, ils ont moins de risques de développer l'Alzheimer, mais même quand ils l'ont dans leur cerveau, ils le combattent.
Oh, donc, OK.
Oui, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on empêche la maladie d'arriver, mais on est capable de faire en sorte que même si elle est là, il y a probablement des réseaux neuronaux qui vont compenser. On ne comprend pas bien encore, et ça, on travaille là-dessus, les chercheurs, mais il y a des études qui ont montré que certaines personnes avaient, lors de leur décès, on pouvait aller voir leur cerveau, on voyait qu'il y avait la pathologie Alzheimer dans leur cerveau, mais en fait, ils n'avaient aucun symptôme de leur vivant. Et ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui étaient stimulés intellectuellement, entourés socialement, physiquement actifs. Donc, et tout ça, ça a déclenché cet intérêt pour la prévention et les facteurs de risque modifiables.
Docteur Belleville, est-ce que notre alimentation peut avoir un impact dans la maladie d'Alzheimer?
Oui, beaucoup d'études qui ont montré qu'une alimentation de type méditerranéenne était associée à un moindre risque de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est bien. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Ça, c'est bon parce qu'on n'a pas besoin de choisir. Donc, si on a une alimentation qui est équilibré. Si on suit, par exemple, le guide alimentaire canadien est très, très bien par rapport à ça, mais il y a même des régimes alimentaires qui vont un peu axer sur les aliments qu'on connaît qui sont bons pour les cerveaux, mais qui sont aussi souvent des aliments bons pour le cœur.
Mais j'imagine qu'à la base de manger des aliments non transformés, de manger des légumes, des protéines, tout ce qu'on connaît déjà sur la santé, ça doit aider, étant donné que ça aide déjà au niveau physique en partant, là.
Exactement.
On a parlé du fait de se stimuler intellectuellement, de l'alimentation. Y a-tu d'autres facteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'Alzheimer?
L'activité physique, en fait, là, il y a deux éléments, parce que vous venez de dire de la qualité de vie des personnes avec un Alzheimer. Il y a deux éléments. Il y a d'une part les facteurs qui nous permettent de réduire le risque, hein, donc de repousser le moment où on a la maladie, où on va développer la maladie, ou même peut-être d'empêcher totalement son apparition. Mais ces facteurs-là, ils peuvent être, ils sont importants aussi pour les personnes qui ont déjà la maladie. Parce que vous venez de dire, est-ce que ça peut augmenter aussi la qualité de vie des personnes avec un Alzheimer? Avoir rester stimulé, avoir des liens sociaux, avoir nos proches encore qui viennent nous voir, faire de l'activité physique, c'est bon aussi pour les personnes qui ont le diagnostic. Mais au niveau de la prévention, puisque là, on parle un petit peu plus de la prévention, il y a, en fait, actuellement, on identifie une douzaine, une quinzaine de facteurs qui sont susceptibles quand de prévenir ou de repousser le moment où on a l'Alzheimer. Il y en a beaucoup. Donc, c'est bien ça parce que ça veut dire qu'on peut travailler à plus qu'un niveau. Donc, il y a l'activité physique. Activité, je dirais ceux qu'on connaît le plus, activité physique, nutrition, activité cognitivement stimulante. Ça, c'est des facteurs importants. Facteurs de risque vasculaire. Si vous faites de l'hypertension, si vous avez du diabète, on peut contrôler ça. Le cholestérol, très important. Le sommeil. Donc, avoir un bon sommeil. On sait qu'il y a plein de raisons. Par exemple, l'apnée du sommeil est très mauvais pour le cerveau. Ça contribue à fragiliser notre cerveau. Donc, si vous avez des problèmes d'apnée du sommeil, il faut vraiment s'en occuper. On sait aussi que pendant le sommeil, à certaines phases du sommeil, on évacue les protéines amyloïdes. Vous savez, ces protéines qui s'accumulent. Donc, on pense de plus en plus que le sommeil pourrait permettre justement d'évacuer les protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Bon, d'être stimulé socialement, d'avoir un réseau social. Mais aussi un dernier intéressant là, que je voudrais nommer, c'est vision-audition. Ça, les gens ils pensent pas, mais tu sais, vous avez des problèmes d'audition, là. Vous allez vous isoler, vous ferez plus d'activité, vous sortirez moins, etc. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui a été identifié comme important.
Docteur, les avantages de déceler la maladie le plus rapidement possible à un âge où le patient peut être le plus jeune possible, puis les médicaments maintenant qui sont mis en place en 2025, pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, les désavantages de le trouver, de la trouver d'avance, là, que la maladie d'Alzheimer est là, est en place, versus les médicaments?
Écoutez, je pense que la plupart des. La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, par exemple, insiste sur l'importance du diagnostic précoce parce que si on attend trop, ce n'est pas une bonne idée d'attendre trop parce que ça veut dire que là, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé. Déjà, le proche, si on a un proche aidant, commence à en avoir trop sur le dos. Puis pourtant, là, il faut prendre plein, plein de décisions. Donc, si on fait ça tôt, ça veut dire qu'on peut s'en occuper tôt. On peut s'occuper de ben, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr que ce n'est pas le fun de recevoir c'est terrible de recevoir un diagnostic comme ça, mais on peut au moins s'adapter. Puis aussi, ça permet de mettre en place des stratégies de prévention, justement. Donc, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est important avant qu'on ait les symptômes, mais c'est aussi important quand on a des symptômes très légers. Donc, si vous avez on vous dit, vous avez peut-être un trouble neurocognitif léger, on ne sait pas vers où ça va aller, ben là, vous allez être super motivé à mettre en place des stratégies de prévention. Donc, pour moi, c'est important.
Ouais, puis les médicaments?
Ben, les médicaments, oui, on a maintenant de plus en plus. Ils ne sont pas encore admis au Canada, mais aux États-Unis, ils le sont. On a des médicaments qui permettent d'évacuer l'amyloïde, puis qui ont un petit effet au niveau cognitif. C'est assez compliqué à mettre en place
Ah
parce
ouais.
que les gens qui n'ont pas de facteur de risque vasculaire, il y a des effets secondaires. Mais il y a de plus en plus de médicaments qui sont, je m'excuse du mot en anglais, là, sur le pipeline. C'est-à-dire qui sont en train d'être testés puis qui s'en viennent. Donc, il y a quand même pas mal d'espoir au niveau des médicaments.
Il y a deux questions d'auditeurs qui sont entrées que je trouve intéressantes. Il y a quelqu'un qui nous dit, à partir de quand on est pris au sérieux quand on va consulter? J'ai seulement 31 ans et il y en a eu dans ma famille. J'ai beaucoup de pertes de mémoire qui affectent ma vie quotidiennement. Donc, c'est un stress pour cette personne-là. Est-ce qu'on peut y aller de façon préventive, consulter?
Ben, comment dire, avec notre système de santé actuel, c'est peut-être pas évident là d'aller de façon préventive consulter. Je pense qu'il faut consulter quand on a des problèmes qui nous préoccupent et qui préoccupent notre entourage.
OK. L'autre
Et
question qui.
à 30 ans, c'est jeune, hein? C'est rarissime à 30 ans, faut le
OK.
dire.
Bon, c'est bon à savoir ça. Il y a
Oui.
une autre personne qui dit, j'ai lu dans quelques études que la créatine aidait à diminuer la dégénérescence. Vous en pensez quoi?
Ben, pas que je. Pas nécessairement. Je ne connais pas très bien cette littérature, alors je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, là, mais ouais. Quand on regarde des études, il faut faire attention. Première chose, il faut que ce soit des études sérieuses, publiées dans des revues scientifiques avec ce qu'on appelle des comités de pairs. Et il faut faire attention à une seule étude, parce qu'une seule étude, quand on fait 100 études sur plein d'affaires, c'est sur la même chose, 100 études, il y en a une qui va sortir. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, les chercheurs vont reposer sur ce qu'on appelle des méta-analyses. Ils vont regarder plusieurs études, mettre ça ensemble. C'est un peu ce que l'étude qui a montré l'importance des facteurs de risque modifiables, mais c'est sur la base de mettre ensemble beaucoup d'études. On repose pas juste sur une étude.
Parlez-moi un peu de Lucilab.
Oui. Oui. Alors, écoutez, Lucilab, c'est quelque chose de formidable. C'est une plateforme. En fait, c'était la vision d'André Chagnon parce que sa conjointe est décédée
Oui.
d'une maladie d'Alzheimer. Et lui, il avait dit, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Puis, il faut aider les gens à changer leur style de vie. Et alors, c'est un peu sa vision. Et Lucilab est une plateforme dont la mission, c'est de favoriser la santé cognitive et physique. Parce que, comme j'ai dit tantôt, hein, on peut agir sur la santé physique et cognitive avec tous ces facteurs modifiables en améliorant les habitudes de vie, mais de façon durable. Donc, pas juste, ah oh, ben là, mois de janvier, je me mets au gym, mais comment on fait pour changer vraiment notre style de vie pour que ce soit intégré, pour que ce soit quelque chose qui reste à long terme. Et donc, le programme phare, si on veut, c'est ce qu'on appelle Lucie. Donc, ça, c'est un programme qui permet, c'est numérique, hein, c'est sur un appareil, un téléphone, c'est un appareil mobile et c'est gratuit. Et ce que ça fait, c'est que ça va dresser le portrait des gens de leur mode de vie. Et ça va faire des recommandations de changement de comportement en fonction de nos risques. Parce qu'on est. On, t'sais, vous êtes bien actif physiquement, mais peut-être vous ne mangez pas super bien. Donc, on va établir le risque personnel et faire un plan avec un accompagnement personnalisé. Donc, il y a des conseillers qui sont aussi. Qui font partie de Lucie, puis qui vont accompagner les personnes pour les
Ouais.
aider.
Puis vous faites de la recherche au travers de ça avec des études. Je pense que vous êtes en campagne de recrutement, justement.
Oui, tout à fait. Alors, Lucie, ben, on peut déjà aller voir Lucie si ça vous intéresse. Là, on peut aller sur Lucie, pour aller voir un peu peut-être un peu la plateforme, etc. Mais il y a une grande étude qui va commencer très bientôt et qui va. On a déjà fait une étude pour montrer que ça a un impact. Et effectivement, on améliore. Les gens sont capables d'améliorer leur activité physique, leur alimentation, leur stimulation intellectuelle. Mais là, il y a une nouvelle étude qui va commencer qui s'appelle étude trait d'union lucie.ca. Et on va. Mesurer encore chez un plus grand échantillon l'effet de Lucilab là, sur le style de vie. Donc, on est très excités. On pense que c'est un service de prévention qui peut être utilisé à grande échelle, qui est très bénéfique pour les personnes.
Pour ceux qui le chercheraient en passant, c'est lucilab.ca ou il y a luciapp aussi.ca pour l'application. Docteur Sylvie Belleville, il y a une question que je me pose pour les proches aidants, pour les gens qui sont autour, en fait, des gens qui ont l'Alzheimer. Comment on peut aider, faciliter la vie? Parce que ça doit être excessivement difficile pour les gens proches, là, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire.
Oui, bien sûr. Écoutez, je pense qu'il y a des services de soutien pour les personnes proches aidantes. Il y a beaucoup d'intérêt pour essayer de réduire la charge de ces personnes-là. Je pense qu'il faut, mon point de vue, étant donné bon, notre intérêt pour Lucilab, la prévention, etc., il faut qu'ils prennent soin d'eux. Donc, ça, c'est important. Donc, comment, par exemple, elles peuvent amener du plaisir dans leur vie, du plaisir avec leurs proches atteints. Ce qui est très important avec la nouvelle perspective sur la prévention, c'est qu'on commence aussi à déstigmatiser la maladie. La stigmatisation associée à la maladie, elle contribue beaucoup à la détresse des personnes proches aidantes. Parce qu'elles n'osent plus sortir, parce que les gens réagissent bizarrement ou réagissent négativement, parce qu'ils trouvent leurs proches étranges. Donc, je pense que comme société, socialement, il faut déstigmatiser la maladie. Et ça va faire un bien immense, à la fois aux personnes atteintes, aux gens qui cherchent un diagnostic et aussi aux proches aidants.
Docteur Sylvie Belleville, experte en neuropsychologie, ça a été un plaisir de vous jaser aujourd'hui. Une fille de Québec, Caroline, c'est le fun.
Saint-Ville.
Elle fait dans le coin
Salut,
de.
maman.
Ben oui, elle vous écoute présentement, on la salue. Ça a été un plaisir, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Merci,
merci,
bonne
au revoir.
journée.
On parlait d'Alzheimer avec le docteur Sylvie Belleville, qui est experte en neuropsychologie du vieillissement cognitif et coprésidente du comité scientifique de l'UCLAB. C'est pour avoir côtoyé la dame que je te parlais tout à l'heure, qui
Oui.
était venue à peu près 3 fois en entrevue avec moi. Elle a appris à 35 ans qu'elle avait l'Alzheimer
C'est
précoce.
jeune, là.
C'est jeune, mais en même temps, comme docteur Belleville nous a dit, vaut mieux l'apprendre très tôt. Parce que si tu avais un mode de vie qui n'était pas sain, ben, la maladie d'Alzheimer allait progresser plus vite.
Oui.
Donc là, elle a mis en place très jeune un plan de match pour faire en sorte qu'elle toffe le plus longtemps possible avant que la maladie d'Alzheimer prenne le dessus.
Oui, parce que c'est quand même 50% des gens qui ont le diagnostic trop tard. Tu vois, on dirait que moi, ça m'a fait peur. C'est un mythe, dans le fond, parce que je pensais que c'était génétique. Je pensais que si c'était dans ta famille, automatiquement, tu avais des gros, gros risques de l'avoir. Fait que le 5% est quand même étonnant. Je trouve quasiment que ça fait peur parce que c'est comme si tu étais un peu responsable du développement de cette maladie-là à quelque part. Si tu stimule pas assez au quotidien, je veux dire, là. Fait que je trouve ça quand même épeurant. En passant, on a parlé de lucilab.ca, mais il y a un autre site web que j'ai vu à travers. Il y a eu des séries d'articles dans les derniers jours là, sur les avancées, justement, par rapport à l'Alzheimer. Puis on parlait aussi du site web enparlertôt.ca, tout d'un bout, là. Puis c'est des outils aussi pour reconnaître des signes précurseurs, des conseils pour se préparer, mettons, à la consultation médicale, de l'information aussi sur le processus de diagnostic. Donc, si jamais vous avez des doutes, là, allez-y, mon Dieu, consultez.
Un gros merci. Hey, nouvelle de dernière minute, c'est le Canadien de Montréal qui nous apprend ça. C'est une histoire très triste. Heureusement, la personne concernée est toujours en vie. Un joueur d'importance chez le Canadien, de plus en plus important, Émile Hyneman, qui a malheureusement été impliqué hier dans un accident de la route. On dit qu'il a été impliqué dans son accident comme étant piéton, donc visiblement, il tentait de traverser la rue. Il a subi une blessure au haut du corps, c'est ce qu'on nous mentionne, et il va être absent pour une durée de 3 à 4 semaines. Donc, ça semble assez sérieux comme blessure. On en saura peut-être un peu plus dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Anyway, on va couvrir ça pour vous, là, si on a plus de détails. OK, nous, on s'arrête. 11h07. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, 418-971-1021.
Il y a encore des troubles si vous êtes sur la 20 direction ouest, là, je vous dirais, entre Chemin des Îles et Taniata. Il y avait une panne tantôt qui semblait s'étirer un peu. Il y a encore des petits résidus de trafic. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas.
Camille dit, c'est quoi déjà le test que Denis avait fait par rapport à ça? Il disait qu'il avait vu un questionnaire sur l'Alzheimer dans le journal. Ah ouais, Denis s'était posé cette question-là.
Oui, bien, quand tu as eu la série d'articles, je pense que oui, c'est quelque chose qui... En fait, c'est parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Hein? Je veux dire, on a toutes peur à un moment donné d'oublier nos proches. Puis je pense que c'est une maladie qui est un peu sournoise parce que toi, au final, tu t'en rends pas tant compte. C'est les autres qui en souffrent plus autour
ben,
de toi.
Le cas que je t'ai parlé de Sandra, là, elle arrive chez elle, il y a une paire de chaussures
c'est
de
troublant.
Femme... qui est dans le bas des marches,
ouais.
Elle est persuadée que son chum la trompe.
Ouais, c'est
son
troublant.
Chum dit, chérie, je te jure, je te
ouais.
trompe pas, ce sont tes souliers que tu as achetés hier avec ta fille. Elle a dû appeler sa fille pour confirmer que ses propres souliers qui étaient là, c'était les siens.
Ouais.
Puis là, c'est le choc, là.
Oui, mais tu sais, vous tapez « test Alzheimer » pour répondre à la question sur Google, puis oui, le journal en avait fait un, mais il y en a tout plein. Là, ceci dit, je veux quand même mettre un petit bémol, là. Il y a possibilité de les retrouver sur Internet facilement, mais vous êtes mieux d'aller consulter directement, jeune médecin?
T'oublies-tu où tu mets tes clés?
Ça m'arrive. Oh, ça m'arrive souvent. Moi, j'oublie où je mets mon char dans le parking quand je me stationne pour aller magasiner.
Au
là.
Centre d'achat.
Oh oui, là-dessus.
Tu l'oublies.
Mais moi, je sais que c'est une question d'espace mental,
là,
de saturation.
Tu te promènes avec ta clé de char, puis là, tu essaies de faire sonner ton char.
Oui, le pire, c'est que je fais souvent ça.
Il y en a qui font ça. Hein? Oui. Moi, là, j'ai. Parce que moi aussi, là, tu sais, je ne suis pas super attentif tout le temps. Des fois, je fonctionne sur le mode automatique. Là. L'endroit où je mets les clés, j'ai réglé ça. Toujours à la même place. Quand je vais aux Galeries de la Capitale, ouais. Je me stationne toujours à la même place.
Dans le même côté de. Oh non, t'as raison.
C'est tout le temps très loin, puis toujours à la même place. Stationnement à job ici, même affaire. Si je me stationne sur le bord de la porte, là, il y a à peu près 400 véhicules. Fait que je m'en vais te porter ça, moi, dans le fond, à l'autre bout. Il est toujours à la même place. Ce qui fait que ces petites affaires-là qui me laissaient présager que, oh, il semble que j'ai beaucoup d'oubli.
J'oublie pas, de les régler.
Ouais, j'oublie pas qui est ma blonde.
Heureusement, mais, souhaite pas ça.
Mais ça a réglé ça.
Ouais.
Parce que si elle est dans ma maison, ça veut dire que c'est ma blonde.
Oui.
Tu comprends?
Ouais, tu fais l'association facile.
Je la laisse toujours à la même place.
Tu restes sur le divan, à droite.
C'est ça.
Ouais. Oh, Seigneur.
Mais c'est des petits trucs comme ça qu'on se donne. Là.
Parce que moi, t'as raison.
J'ai pas d'Alzheimer, mais je suis extrêmement distrait. Si je suis en train de penser à quelque chose, puis quelqu'un me parle, oublie ça. C'est juste, j'entends... Ce que j'entends dans mes oreilles de cette personne-là, c'est...
Tu sais que ça paraît, hein?
Puis là, tu dis, « Hey, tu m'entends-tu? » Oui, oui, j'entends. Puis là, je continue à faire mes affaires. Puis après ça, je suis tout à toi.
Oui, ça paraît.
Yes, oui, tout à toi.
Ça se sent.
11h10. Tu sens ça?
Ben oui, ça se sent.
Ah, ouais.
Toi, c'est facile de savoir quand tu viens de perdre l'attention ou quand tu penses à autre chose.
Comment ça?
Tout te paraît en face.
C'est écrit comment?
C'est vraiment facile. Ben, moi, je te dirais, c'est dans tes yeux, là, mais moi, je le sais quand tu m'écoutes plus. Je pourrais me mettre à dire, oui, tu sais, la girafe en Afrique, là, belle date qu'elle a faite avec l'éléphant, tu t'en rendrais même pas compte.
Hein?
Oh, ouais, pause.
Pause. Gravel, dans le pain chaud. 11h18 minutes. Qu'est-ce que j'entends, Audrey? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends, Audrey? Qu'est-ce que j'entends?
Tu te réponds ou...
Je pense que c'est du AC/DC.
Oui.
Vous tripez sur AC/DC, vous allez certainement tripper sur l'hommage à AC/DC au Grand Théâtre de Québec. Je vous parlais que j'ai vu Nirvana là-bas en formule concert avec la gang du Grand Théâtre de Québec. J'ai trippé comme pas possible. Donc, j'ai vu Nirvana, j'ai vu un autre
hommage,
Guns N' Roses. On a vraiment trippé. Je connais pas grand-chose à la musique, mais quand c'est bon, j'aime. J'étais accompagné de gens qui appréciaient la musique aussi cette soirée-là.
Avec l'Orchestre symphonique de Québec, c'est puissant.
Yes. Puis, il va y avoir un hommage AC/DC au Grand Théâtre de Québec le 10 février prochain à 20h. Essayez-le. Si vous n'êtes jamais allé au Grand Théâtre de Québec parce que vous dites « Ah, c'est du monde guindé », essayez-le une fois, puis je vous le dis, vous allez vouloir retourner à tous les hommages faits par cette belle gang-là, gestion SPDL, qui font ça en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Québec. C'est de toute beauté à entendre.
Mais j'en doute pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai ça sur ma bucket list. Faudrait juste que j'achète les billets, en fait. Chaque fois que j'en vois un passer, je suis comme « Ah, ça a l'air tellement le fun! »
On est disponible, mais faut que tu payes. 10 février, c'est au grandtheatre.qc.ca. Grandtheatre.qc.ca. Tu peux acheter tes billets pour le 10 février. Mais nous autres, pour les auditeurs, on est prêts à tout!
On est prêts à tout, tout, tout. On a une paire de billets pour vous. Je propose une question très simple. C'est quoi le titre de la chanson que Yann vous a fait entendre d'entrée de jeu? C'est facile, là. Enfin. Non, mais il faut que la musique soit accessible à tout le monde, Yann, là.
418-971-1021, 418-971-1021. Hey, il reste à peu près 2 minutes. Tu voulais me parler de Brad Pitt, là. T'es-tu rendu comme CV? Tu vois du Brad Pitt partout?
Non, mais j'ai pitié pour cette femme-là qui s'appelle Anne, qui est une décoratrice d'intérieur âgée de 53 ans. Elle s'est fait frauder de plus $1 million en pensant parler à Brad Pitt. Je ne sais plus comment le dire aux auditeurs, là. Brad Pitt ne vous contactera pas, OK? Ça n'arrivera pas. Son histoire débute en février 2023. Elle prend des petites vacances de ski, la vie est belle. Elle s'est créé un compte Instagram pour mettre son voyage sur ses réseaux sociaux. Et là, tout d'un coup, elle reçoit un message d'une Jane Etta Pitt, qui serait la mère de l'acteur, OK? Le lendemain, il y a un autre compte qui la contacte qui dit que c'est Brad Pitt. Et là, il dit, ma mère m'a beaucoup parlé de vous, comme si elle faisait le filtre un peu pour lui, là, tu comprends, parce qu'il est populaire. Donc, elle se met à jaser avec lui. Au début, elle pensait que c'était une joke, elle y croyait pas. Mais là, à un moment donné, il y a une correspondance assez régulière qui s'installe. Et là, il envoie des poèmes, des déclarations d'amour. Il envoie même des vidéos de lui qui sont, on le sait maintenant, généré par l'intelligence artificielle pour la convaincre de son identité. Fait qu'elle, elle embarque à 100 %, OK? Quelques jours plus tard, à un moment donné, il dit « Je t'envoie des cadeaux. Mais là, il y a les frais de douane. Peux-tu t'en occuper? Je te les rembourse. Ce sont 9 000 euros. » OK? Fait qu'elle dit « Bien, il n'y a pas de problème. Il m'a donné 9 000 $ puis je vais recevoir tes cadeaux de riche puis tu me rembourseras un peu plus tard. C'est donc bien fait de
ta part. » Elle m'a donné 9 000 $ à Brad Pitt.
Ben oui. Oui, parce que Brad Pitt a vraiment besoin d'argent, tout le monde le sait. Fait qu'elle est vraiment persuadée de sa sincérité, tu comprends? Et là, à un moment donné, il dit « J'aurais besoin que tu m'envoies des sous parce que là, je vais avoir de la misère. Je souffre d'un cancer du rein. Mes comptes bancaires sont bloqués parce que je me divorce d'Angelina Jolie pour toi. C'était vraiment un choix difficile, mais je veux vraiment qu'on soit ensemble. »
Puis elle a croyé à tout ça, là.
Ben oui, donc pour l'aider dans son cancer et dans sa séparation, elle lui envoie un giga montant de 775 000 euros. Elle décide de, elle, se séparer de son mari. Tu comprends? Parce que là, c'est la future femme de Brad Pitt. Et c'est seulement cet été, l'été passé en 2024, qu'elle a vu dans les médias puis sur les internets qu'une histoire semblable qui s'était passée avec une autre femme. Et là, elle a réalisé l'argent qu'elle venait de perdre.
Ouch.
C'est un montant de comme... J'y vais de mémoire, là, mais t'es à 900 000 quelque chose. Là. T'es près d'un million. Là. Et là, tu comprends qu'elle a porté plainte, mais le mal est fait. Là. Ils peuvent absolument rien faire avec ça. Là. C'est quelqu'un dans un pays à quelque part là, qui a pris cet argent-là, qui a supprimé ses comptes. Mmh. Surprise, hein?
Mais l'amour, ça peut faire des maudites niaiseries.
Oui, mais Yann, Brad Pitt...
T'as juste à aller au Lady Marianne pour voir à quel point le monde peut dépenser
Yann,
de l'argent pour l'amour.
Brad Pitt!
Ouais.
T'sais,
elle avait espoir.
Ben là, elle avait espoir. À la limite, tu te rends compte, j'ai plus pitié pour les gens qui se font escroquer. Ça serait bien escroquer, j'aimais ça. Qui se font avoir, tu comprends, dans un amour de quelqu'un de pas connu, là, parce que c'est plus plausible. Mais Brad Pitt, penses-tu qu'il va laisser Angelina Jolie pour toi?
Pour moi, là?
Ben non, mais je parle pour cette pauvre Anne-là, décoratrice d'intérieur de 53 ans.
C'est quoi? Il y a juste la beauté qui est importante?
C'est pas ça le point. Le point, c'est que Brad Pitt te contactera jamais sur Instagram. Je comprends
même...
pas les gens.
Jamais moi, ils sont même plus ensemble. Là.
Je pense plus qu'ils sont ensemble. Ils sont séparés depuis un bout, mais elle a créé ça. En partant, là, va faire une recherche Google, puis t'aurais eu réponse à toutes tes questions. Là, mais je trouve ça tragique. Mon Dieu, que c'est triste.
Je sais qu'on a des recherchistes en herbe, là, mais il y a déjà quelqu'un, un grand philosophe. Fait que c'était pas dans ma famille. Déjà quelqu'un qui a dit. Il n'y a pas de mal à déposséder un compte son argent.
Non. Non, parce que t'es pas... Non, mais attends, il y a une vulnérabilité. Puis ça, j'ai pitié pour ça. Tu vas me dire qu'elle est un peu niaiseuse, c'est bon, là.
J'ai jamais dit ça.
J'ai de la misère à te contredire. Sauf que... Grande vulnérabilité, là.
Ouais.
Parce que c'est impossible que tu te fasses dépocher comme ça.
T'as juste oublié de dire que la fille, pendant qu'elle discutait avec Brad Pitt, est en couple.
Ben oui, absolument, elle était mariée. Elle s'est séparée de son mari.
La conne
oui.
a laissé son chum
oui.
pour un gars qui n'existait pas.
Elle a demandé un divorce.
Pour Brad Pitt.
L'humain va me surprendre de façon éternelle. Non, mais tabarnouche de tabarnouche.
Ouais.
Ouais, fait que ne soyez pas comme Anne.
Non!
Et passez une belle journée.
Et comme les gars, mais au lieu des Marianne qui dépensent de l'argent. Pour de l'amour.
Ouais, ça, c'est désespéré.
Bob, on a besoin de toi. OK, dans la rue, sur le boulevard. Salut. Merci, Audrey. Bye-bye.